Vous écoutez On lit pour vous.
Où vont les capsules Nespresso? Un texte de Marie-France Letourneau, paru le 17 octobre 2024 dans la presse. Le recyclage des capsules de café Nespresso prend de l'ampleur chez 2M Ressources. Une augmentation d'environ 10 % des quantités traitées et par conséquent de l'aluminium recyclé est noté chaque année, relève l'entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu. En vertu d'un partenariat avec Nespresso, propriété du géant suisse Nestlé, la PME recycle, depuis près de 10 ans, 100 % des capsules de café usagées acheminées dans les centres de tri du Québec et 65 % de celles de l'Ontario. C'est en croissance continue, affirme Robert Julien, premier vice-président de 2M Ressources. En 2023, on a récupéré 2800 tonnes métriques de capsules, café compris. À elle seule, la quantité d'aluminium représente 325 tonnes métriques. L'entreprise dispose d'équipements mécaniques lui permettant de séparer le contenant du contenu. De ce fait, le marc de café est récupéré et prend le chemin de la biométhanisation, tandis que l'aluminium est mis en ballots compressés et vendu à des recycleurs d'aluminium américains en majorité. Ces recycleurs utilisent cet aluminium pour refaire principalement des feuilles d'aluminium, précise Robert Julien. Les représentants de Nespresso, joints par la presse, n'ont pas été en mesure de préciser quel pourcentage des capsules vendues au Québec est recyclée. La PME 2M Ressources, qui emploie une cinquantaine de personnes, assure pour sa part être en mesure de traiter un plus grand volume. On est actuellement à peine un peu plus de 50 % de notre capacité de production pour la ligne de capsules de café, affirme Robert Julien. Robert Julien souligne que les sacs de plastique vert Nespresso dans lesquels les consommateurs de café sont invités à jeter leurs capsules usagées avant de sceller le tout et de les déposer dans leur bac bleu, sont récupérés, emballés et envoyés au recyclage. Autres produits en aluminium. En plus des capsules de café Nespresso usagées, la PME de Saint-Jean-sur-Richelieu récupère un autre produit en aluminium, cette fois-ci sous forme de canette. L'entreprise opère une chaîne de destruction de produits périmés qui permet, par exemple, aux grandes brasseries ainsi qu'aux fabricants de boissons gazeuses de se départir de produits, en bouteille ou en canette, qui ne peuvent être vendus pour différentes raisons. Encore une fois, contenants et contenus sont séparés de façon mécanique. Les liquides sont dirigés vers la filière locale de biométhanisation, tandis que le verre et l'aluminium sont recyclés. Comme pour les capsules de café, l'aluminium est mis en ballot et vendu aux États-Unis. Selon Robert Julien, bon an mal an, quelques 1000 tonnes métriques de canettes en aluminium sont ainsi récupérées et revalorisées. Économie verte. Bien que le volet récupération des produits d'aluminium soit important, la principale activité de l'entreprise est liée au conditionnement du verre. Les bouteilles de verre récupérées dans différents points de collecte et dans les centres consigne-action, notamment, sont également acheminées chez 2M Ressources. Depuis sa fondation en 1999 par l'actuel président Michel Marquis, l'entreprise affirme avoir détourné plus de 1 million de tonnes de verre des lieux d'enfouissement québécois. Le verre recyclé est entre autres utilisé par l'entreprise montréalaise Owens Illinois pour la fabrication de nouvelles bouteilles ou contenants. On est dans l'économie circulaire à 100 %, fait valoir Robert Julien. Selon lui, que ce soit pour le traitement du verre ou de l'aluminium, le défi demeure d'assurer la pureté de la matière. L'aluminium, par exemple, ne doit pas être contaminé par des grains de café. moins il y a de café mélangé à l'aluminium, plus le prix sera meilleur sur le marché, dit M. Julien. On a des équipements spécialisés pour y arriver. En savoir plus, 5000 capacités de traitement annuelles en tonnes métriques de capsules de café Nespresso usagées par 2M Ressources, source 2M Ressources. C'était « Où vont les capsules Nespresso ?» un texte de Marie-France Letourneau, paru le 17 octobre 2024 dans la presse.
Les assurances, un pari perdu d'avance. Un texte de Farnell Morissette, paru le 1er octobre 2024 dans Urbania. Faire assurer un achat, c'est un casino payant, mais pas pour vous. Le bien ne suffit pas à assurer le bonheur, mais le mal suffit à assurer le malheur. Aristote. Il y a quelques années, un oncle qui travaille dans le domaine des assurances m'avait surpris avec une phrase qui m'a collé à l'esprit. « Si tu peux te permettre de l'acheter deux fois, ne l'assure pas. » Fondamentalement, il n'y a pas de différence économique entre un contrat d'assurance et un pari au casino. Dans les deux cas, on paye un petit montant à la maison, le casino ou la compagnie d'assurance, c'est selon, en échange de potentiellement empocher un gain important selon le résultat d'un événement qui relève du pur hasard. La seule différence, c'est qu'au casino, on espère que le hasard nous fera gagner le gros lot, tandis qu'avec un contrat d'assurance, on espère que le hasard nous fera perdre notre mise, notre prime, ou du moins aidera à minimiser nos pertes. Prenez l'assurance vie, par exemple. On paye un petit montant mensuel qui promet de payer gros si le hasard fait en sorte qu'on meurt prématurément. Ce n'est pas si différent d'un billet de loterie, sauf que, bien sûr, on n'espère pas gagner notre pari. Profit statistiquement garanti. Le modèle d'affaires des compagnies d'assurance est d'ailleurs essentiellement le même que celui du casino. La maison calcule les probabilités de l'ensemble des résultats possibles et pèse les coûts de participation de façon à ce que, statistiquement, elle gagne plus souvent qu'elle perd. Les casinos le font en contrôlant leur jeu afin d'en choisir les probabilités, mais les compagnies d'assurance, qui ne contrôlent évidemment pas le hasard associé aux aléas de la vie, se fient à des calculs probabilistes complexes, effectués par des équipes de spécialistes d'actuariat, de mathématiques et de sciences sociales, pour s'assurer qu'en moyenne, le montant payé par les clients et ou clientes assurés soit inférieur au montant payé par les compagnies d'assurance. De cette façon, même si, de temps en temps, le hasard sourit à un client qui encaisse plus que ce qu'il a payé, on ne s'en sort pas. The house always wins. Un jeu truqué? Ce qui est relativement nouveau comme phénomène, cependant, c'est la croissance des compagnies de biens de consommation qui veulent prendre part à ce casino lucratif. Prenez les compagnies de cellulaire, par exemple. Après votre plus récent achat d'appareil, on vous a sûrement offert, même fortement suggéré, d'acheter une police d'assurance additionnelle en cas de bris. Vous voyez, la compagnie de cellulaire a des années de données très précises sur le nombre d'appareils qu'on échappe, qu'on égratigne, qu'on tente sans succès de sauver à l'aide d'un sac de riz ou qu'on oublie dans notre poche arrière avant de s'asseoir. Grâce à celle-ci, ils peuvent estimer, avec un très fort degré de confiance, la durée de vie probable d'un nouveau téléphone intelligent entre nos mains maladroites. Suffit maintenant de multiplier la probabilité qu'un téléphone ne survive pas à la période de protection par le coût de remplacement du dit téléphone, d'ajouter une marge de profit, et le tour est joué. La compagnie vous a convaincu de payer plus cher que le coût probable de remplacer votre téléphone en cas de bris. Pour certaines compagnies, ce genre de stratagème, en plus d'intérêts élevés pour ceux qui achètent leurs appareils en paiement mensuel, représente la part du lion de leurs profits, encore plus que la vente des biens eux-mêmes. quand ça vaut le coup. Bien sûr, il y a des instances où, malgré le pari perdant, il est prudent d'assurer un bien, particulièrement quand il serait impossible de le remplacer par des moyens financiers. L'assurance vie est un bon exemple, comme le sont l'assurance auto et l'assurance habitation. D'où l'importance de la première partie de la phrase de mon oncle. Si tu peux te permettre de l'acheter deux fois. Dans les situations où c'est impossible, les assurances sont souvent le seul moyen de partager le risque pour ne pas subir trop de conséquences à la suite d'une perte. Mais pour les biens que l'on peut facilement remplacer, pensez-y bien. Si la compagnie qui vous offre les assurances est gagnante à long terme, c'est que vous êtes perdant à long terme. Les compagnies ne sont pas dupes. Elles vous chargent plus que la probabilité réelle de devoir les remplacer. À moins, bien sûr, que vous sachiez que vous êtes particulièrement maladroit, signifiant qu'il est statistiquement plus probable que vous ayez à remplacer votre téléphone qu'un autre. Dans ce cas, ce sont les propriétaires attentionnés qui subventionneront votre prochain téléphone. Raison de plus de faire attention à ces biens. C'était « Les assurances, un pari perdu d'avance », un texte de Farnell Morissette paru le 1er octobre 2024 dans Urbania.
Plongée pour la cause. Un texte de Philippe Mercure paru le 1er octobre 2024 dans La Presse. Facile de se sentir impuissant face aux enjeux environnementaux. Mais plutôt que de sombrer dans le fatalisme, des citoyens de tous les horizons choisissent de combattre la crise en donnant de leur temps. Portrait en trois temps de bénévoles pour l'environnement. Marie-Josée de Carufel émerge des profondeurs du fleuve Saint-Laurent, se hisse dans le bateau et retire son masque. Ses lèvres sont légèrement bleuies par le froid, mais elle dessine un large sourire. Sous l'eau, dans des conditions de visibilité à peu près nulles, elle vient de dégager, à coups de couteau, des pneus attachés ensemble par des sangles de caoutchouc. Elle a ensuite fixé une corde munie d'une bouée à chacun des pneus ainsi libérés. Prochaine étape, hisser ces vieux pneus couverts de boue et de moules zébrés et les tirer en bateau jusqu'à la berge. Nous sommes à Beauharnois, sur la rive sud de Montréal. En 1990, la municipalité a installé ici un brise-lames formé de 40 000 pneus destinés à protéger sa marina des vagues. Ce qui semblait être une bonne idée s'est avéré un désastre quand toute l'installation a coulé. Des milliers de pneus n'ont jamais été récupérés et reposent toujours au fond du fleuve. Pour ajouter au problème, les pneus sont remplis de styromousse qui se désagrège et pollue les eaux. Marie-Josée de Carufel, ou M-J-E-E, MJ, comme tout le monde l'appelle ici, est policière pour la ville de Laval. Elle avait prévu prendre 4 jours de congé pour repêcher des pneus du fond du fleuve. Elle a fini par en prendre 7, en plus d'y consacrer 2 week-ends complets. Les gens me disent « Quoi? Tu prends des semaines de congé pour faire ça? » Je leur dis « Ben oui, j'aime ça. » Ce qui l'amène ici est un mélange de plaisir et d'engagement. Si je plonge dans le fleuve juste comme ça, sincèrement, on ne voit pas grand-chose. Mais là, je plonge dans un but. J'ai une mission, dit celle qui a participé à plusieurs nettoyages du genre, notamment à Boucherville, à la Chine et dans le cadre de l'événement 24 heures pour mon fleuve. La mission de Beauharnois a été organisée par l'organisme Aqua Subterra Exploration, qui a loué une maison à Léry pour y loger les plongeurs bénévoles. Madame de Carufel y trouve aussi un trip de gang qui lui plaît. « On amène nos matelas et on se débrouille », lance-t-elle. Contribuer à assainir le fleuve lui procure également une grande satisfaction. « J'aime qu'on prenne soin de notre planète. Je veux essayer de préserver au maximum ce qu'on a. C'est correct de faire des marches et de manifester, mais je préfère l'action. Ça m'amène plus de gratification. Je vois directement le résultat », dit-elle en pointant une remorque remplie de pneus extraits du fleuve qui partiront bientôt vers une usine de recyclage. L'équipe laisse sur place les pneus trop profondément enfouis au fond du fleuve parce que trop remuer les sédiments ferait plus de tort que de bien. MJ est évidemment consciente que ce n'est pas tout le monde qui peut descendre ainsi sous l'eau et se battre au couteau avec des sangles étonnamment résistantes alors qu'on n'y voit presque rien. Ça l'incite d'autant plus à s'impliquer. J'ai l'équipement pour le faire. J'ai les capacités. Je suis formée en plongée technique, en plongée de grotte, en plongée solo, énumère-t-elle, disant être prête à abîmer un peu sa coûteuse combinaison de plongée pour la cause. Ses missions de nettoyage ont même déteint sur la façon dont elle plonge pour le plaisir. « Chaque fois que je voyage quelque part, je ramasse », dit-elle. « C'est comme un réflexe. Je me traîne des sacs en jute et je ramasse des déchets pendant mes plongées. » La bénévole à l'horaire de ministre. Elle est du profil horaire de ministre, en implication bénévole, m'avait-on dit, au sujet de Catherine Vallée. Je rencontre la femme de 60 ans chez elle à Candiac. Un mur de son bureau est couvert de papiers adhésifs roses sur lesquels sont inscrits des noms d'organismes environnementaux et de personnes à contacter. « Je suis en contact avec beaucoup de monde et je reçois beaucoup de courriels. À un moment donné, je viens un peu perdue. Alors ça me prend des rappels », explique-t-elle. Pour Mme Vallée, l'implication passe beaucoup par l'ordinateur. Elle aide de nombreux organismes environnementaux à effectuer des recherches, à rédiger des lettres, à structurer des argumentaires, à lancer des pétitions. Elle siège aussi au comité consultatif de plusieurs organismes. Catherine Vallée dit investir 40 heures par semaine dans son implication bénévole comme un travail régulier. Le jour de notre passage, elle organisait le lancement d'une plateforme consacrée à l'échange d'informations sur la protection des milieux naturels qui aura lieu le 8 octobre. On a toute notre information avec un lien d'inscription. Alors j'envoie ça par courriel à des organisations avec lesquelles j'ai des contacts pour les inviter au lancement, détaille-t-elle. Madame Vallée profitera de l'événement pour présenter elle-même une pétition exigeant un moratoire sur la construction en milieu humide. Son approche est studieuse, méthodique. J'ai écrit ma présentation, j'ai eu des commentaires et je suis en train de la réviser. Avant votre arrivée, je relisais le rapport de la commissaire au développement durable qui a fait un audit de performance de la loi sur les milieux humides et hydriques. Je veux m'assurer que toutes mes informations sont exactes, dit cette enseignante au primaire à la retraite qui possède une maîtrise en écologie. J'aimais mon travail, j'aimais aider les enfants. Mais au fond de moi, je n'étais pas sur mon X. Là, je suis sur mon X. Ma motivation est grande. On fonce dans le mur avec l'environnement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, dit-elle. Catherine Vallée explique que, pour elle, agir est aussi une façon de chasser l'angoisse générée par les défis environnementaux. J'ai des capacités, je peux les mettre à profit. À la fin d'une journée, je suis contente de moi. Beaucoup plus que si je m'étais tourné les pouces. Celle dont la fibre militante est manifeste veut également contribuer à faire pression sur les élus. La transparence au niveau politique n'est pas toujours là, estime-t-elle. La volonté non plus. Si les citoyens ferment les yeux, restent passifs ou ne s'informent pas, les politiciens vont continuer de nous passer tout ce qu'ils veulent. J'essaie de prendre des pauses le week-end parce qu'il faut parfois que je tire la plogue. On est quand même dans quelque chose qui est difficile, continue-t-elle. Mais j'ai le chum parfait pour ça. Il veut toujours aller visiter des choses. Vous écoutez « Plongée pour la cause », un texte de Philippe Mercure, paru le 1er octobre 2024 dans La Presse. La famille qui plantait des arbres. « Papa, arrête de parler. Faut que tu plantes des arbres. » Lance Philomène Claveau Kemp, 11 ans, à son père, Jonathan. « Je plaide coupable. C'est moi qui embêtais M. Kemp avec mes questions alors qu'il s'apprêtait à planter un chêne. » Plus loin, l'aîné de la famille, Lily, 15 ans, vient de planter un érable avec une rapidité impressionnante. Elle déploie maintenant une rondelle de paillis autour du jeune arbre pour empêcher les herbes de l'étouffer. Philomène et sa mère Alexandra, pendant ce temps, tentent, tant bien que mal, d'enfoncer un planteur dans le sol afin d'y creuser un trou destiné à accueillir un pin rouge. J'ai rencontré la famille Claveau-Kemp par un radieux dimanche de septembre sur l'île Sainte-Thérèse, située dans le fleuve Saint-Laurent, entre Pointe-aux-Trembles et Varennes. Elle participait à une activité de plantation d'arbres organisée par la Société pour la nature et les parcs, SNAP, en collaboration avec l'organisme Arbre Évolution. Jadis largement occupée par l'agriculture, l'île Sainte-Thérèse ressemble aujourd'hui à une vaste friche. Le roseau commun, ou phragmite, une plante envahissante, a pris le contrôle d'une bonne partie de l'île. On aperçoit bien une forêt de frênes au loin, mais elle a été complètement ravagée par la grille. Les arbres qui sont plantés ici seront donc fort bienvenus, d'autant que la ville de Varennes veut aménager un vaste parc sur l'île Sainte-Thérèse. Pas moins de 30 000 arbres y ont déjà été plantés par des bénévoles depuis 2021. L'objectif? Atteindre 100 000 d'ici 2030. C'est plus difficile que ça en avait l'air quand ils ont fait leur démonstration, lance Alexandra Claveau, qui commence à comprendre que l'après-midi sera chaud et exigeant. Pour Philomène, Lily, Alexandra et Jonathan, ce travail bénévole représente la contrepartie d'une aventure extraordinaire. En début d'année, ils sont partis en voyage pour 6 mois. Vietnam, Laos, Indonésie, Japon, Maroc, Espagne. Ils en parlent encore avec des étoiles dans les yeux. Évidemment, qui dit voyage en avion dit émission de GES, d'où la présence de la famille ici. On a fait beaucoup de vols, alors on s'est dit qu'on pourrait au moins faire quelque chose ensuite pour aider, résume Lily. Les lecteurs les plus perspicaces noteront que, d'un point de vue strictement technique, planter des arbres pour la SNAP ne peut compenser les émissions des vols de la famille. Les arbres plantés sur l'île Sainte-Thérèse font en effet partie des fameux 2 milliards d'arbres promis par Justin Trudeau. Le carbone qu'ils captent sera donc comptabilisé dans les efforts de réduction du fédéral. La famille Claveau-Kemp en est consciente. C'est pourquoi elle a aussi l'intention d'acheter environ 120 arbres à la coopérative Arbre Évolution pour un coût de 1 500 à 2 000 $. J'ai parlé aux gens de l'organisme. Ils m'assurent que cet achat permettra réellement de planter de nouveaux arbres et donc de capter du carbone qui ne l'aurait pas été autrement. On revient de voyage et on n'a pas encore les liquidités, mais on s'est engagé à acheter ces arbres, dit Jonathan Kemp. Par un heureux hasard, la famille a planté environ 120 arbres lors de son après-midi de bénévolat sur l'île Sainte-Thérèse. À terme, Philomène, Lily, Alexandra et Jonathan auront donc acheté 120 arbres et en auront planté 120 autres pour compenser les émissions de leur voyage. « On ne voulait pas seulement faire un chèque, » dit Jonathan Kemp. « En plantant aussi les arbres, ça devient plus concret. Et il y a une dimension éducative pour les filles. En plus, on habite Hochelaga. On trouvait intéressant de faire quelque chose proche de chez nous. » M. Kemp est conscient que certains considèrent que compenser ses émissions est une façon facile de se dédouaner. Mais il assume. Ce voyage, la famille tenait à le faire, notamment pour ouvrir les yeux des filles sur d'autres réalités. On ne prétend pas changer le monde, précise Jonathan Kemp. On vient passer un après-midi à planter des arbres. Un Tinder de l'environnement pour les bénévoles. À la mi-septembre 2024, la SNAP Québec a lancé le réseau Volontaire, décrit comme le Tinder de l'environnement. L'idée? Mettre en contact les bénévoles qui veulent s'impliquer et les organismes qui ont besoin de leurs bras ou de leur cerveau. C'était « Plonger pour la cause », un texte de Philippe Mercure, paru le 1er octobre 2024 dans La Presse.